VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 11 août 2023. En direct de Washington, Idrissa Seludia. Pour commencer, les titres. La CDAO ordonne le déploiement de sa force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. La République centrafricaine part contre la France, selon le président Faustin Archange Touadéra, mais toujours avec la Russie. Pas d'allègement des sanctions contre l'Iran dans l'accord sur l'échange de prisonniers, précise le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Hawaï compte ses morts par dizaines après les pires incendies de son histoire. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le sommet des chefs d'État de la CDAO a ordonné hier à Abuja au Nigeria l'activation d'une force en attente pour une éventuelle intervention au Niger. L'organisation affirme qu'elle souhaite une restauration pacifique de la démocratie, mais que toutes les options, y compris la force, sont sur la table. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
La junte qui a pris le pouvoir le 26 juillet dernier a défié l'ultimatum du 6 août fixé par la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'organe sous-régional s'est engagé à appliquer des sanctions, des interdictions de voyager et des gels d'avoir contre ceux qui empêchent le retour au pouvoir du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Les chefs militaires des armées des pays membres ont reçu l'ordre d'activer immédiatement la force en attente de la CDAO pour un éventuel déploiement pour établir l'ordre constitutionnel en République du Niger. La CDAO n'a pas précisé comment la force serait financée, quel pays y participerait ou même le nombre de soldats déployés. La diplomatie reste tout de même la voie privilégiée. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, nous fait à présent le point des réactions à Niamey après les conclusions de ce sommet extraordinaire de la CDAO.
Les autorités militaires du Niger n'ont pas encore réagi aux conclusions de ce sommet d'Abuja, mais dans les rues de Niamey, la capitale, les citoyens se sont prononcés.
C'est une agression et nous demandons aux membres du CNSP de considérer ça comme un acte de guerre et de répondre par la force. En tant que citoyens, ça fait quelques jours déjà que nous avons pris l'engagement de nous mobiliser parce que le centre du pouvoir, là où se trouve celui qu'ils veulent rétablir, c'est Niamey, et nous allons nous constituer en bouclier humain.
Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes devant notre armée. Ce n'est plus l'armée qui est devant nous. S'ils s'attaquent aux militaires, ils devront d'abord s'attaquer à nous, d'abord peuple nigérien.
Par rapport à l'intervention militaire qu'ils veulent faire, on les attend de pied ferme. Ils vont voir les Nigériens debout, attendre leur bombe. Alors... Et la conséquence de tout ça, là, ils vont endosser.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Le président ivoirien Alassane Ouattara, à son retour jeudi soir à Abidjan, a déclaré que les chefs d'État de la CDAO avaient donné leur feu vert pour que l'opération démarre dans les plus brefs délais. Il a précisé que la Côte d'Ivoire fournira un bataillon de 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment, et que d'autres pays les rejoindront. Pour sa part, le président de la CDAO, le Nigérian Bola Tinubu, a dit espérer parvenir à une résolution pacifique, ajoutant qu'un recours à la force en dernier ressort n'était pas exclu. Et le président de la commission de la CDAO, Omar Touré, a lui réaffirmé l'engagement continu à la restauration de l'ordre constitutionnel à travers des moyens pacifiques. Plein soutien de la France à l'ensemble des conclusions de la CDAO, soutien des États-Unis au leadership et au travail de la CDAO pour le retour à l'ordre constitutionnel, a dit le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra juge qu'il est trop tôt pour évoquer son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2025. Il déclare par ailleurs que son pays n'est pas contre la France. Les détails avec Jacques Aristide.
Je viens juste de recevoir le nouvel ambassadeur de France en République centrafricaine. Ça veut dire qu'il y a la coopération entre la France et la République centrafricaine qui se poursuit et nous cherchons à l'améliorer, à la consolider dans l'intérêt de nos deux populations, a dit à Bangui le chef de l'État centrafricain au cours d'un entretien exclusif accordé avant-hier à l'AFP et TV5 Monde. Les relations franco-centrafricaines se sont fortement dégradées depuis le rapprochement de Bangui avec la Russie en 2018, avec l'arrivée en RCA du groupe russe Wagner. Interrogé sur ses intentions au sujet du prochain scrutin présidentiel, Faustin Archange Touadéra, 66 ans, a répondu « Cette question ne me gêne pas, mais je trouve que c'est trop tôt ». En début de semaine, l'autorité nationale des élections a annoncé la victoire par référendum d'un projet de nouvelle constitution donnant la possibilité au président Touadéra de briguer un troisième mandat. « Je suis à mi-mandat, donc je ne réfléchis pas au prochain mandat. Il y a encore du travail et beaucoup de défis pour le peuple centrafricain auxquels je dois apporter des réponses », a-t-il encore déclaré.
Ici aux États-Unis, Hawaï compte ses morts par dizaines après les pires incendies de son histoire. Le bilan des incendies dévastateurs qui ont quasiment rasé une ville touristique de cet État américain atteint au moins 53 morts et risque de s'alourdir selon les autorités. Les détails avec Nani Talani.
Ce nombre tragique va probablement encore s'alourdir. C'est la plus grosse catastrophe naturelle de l'histoire de l'État d'Hawaï, a assuré le gouverneur Josh Green jeudi face à la presse. Toutes les victimes retrouvées jusqu'à présent ont péri dans un incendie qui a pratiquement réduit en cendres Lahaina, le haut lieu touristique de l'île de Maui, ont confirmé les autorités. L'île d'Hawaï a également été touchée par des feux de moindre ampleur, désormais sous contrôle. Des images montrent des milliers d'immeubles complètement calcinés. Cette ville historique, ex-capitale du royaume d'Hawaï au XIXe siècle, est à 80% détruite, estime le gouverneur. L'incendie est désormais maîtrisé à 80% selon les autorités, mais deux autres feux sont toujours en cours sur l'île de Maui. Le président Joe Biden a signé une déclaration de catastrophe naturelle, ce qui va permettre de débloquer d'importantes aides fédérales pour financer les secours, hébergements d'urgence et efforts de reconstruction. Des milliers de personnes ont été évacuées des zones sinistrées vers des centres d'urgence ou l'aéroport principal de Maui. Des bus sont organisés pour les exfiltrer.
Washington ne prévoit pas d'allègement des sanctions visant Téhéran dans le cadre de l'accord sur un échange de prisonniers entre les États-Unis et l'Iran, a précisé jeudi le secrétaire d'État américain. Il répondait à des questions sur le possible dégel de 6 milliards de dollars de fonds iraniens. Les fonds de l'Iran devraient être utilisés et transférés à des comptes restreints afin qu'ils ne puissent servir que dans un but humanitaire, a dit M. Blinken. Il s'agit, dit-on, d'achats humanitaires tels que des denrées alimentaires et des médicaments. M. Blinken a aussi indiqué que les États-Unis avaient été en contact avec les familles des 5 Américains détenus en Iran et qui ont été placés en résidence surveillée dans le cadre de cet accord. Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi, lors d'un déplacement dans l'Utah, que la Chine, grande rivale des États-Unis, était une bombe à retardement, citant ses problèmes économiques et le vieillissement de sa main-d'œuvre. À cause de cela, la Chine est en difficulté, a-t-il soutenu. Pour M. Biden, cela donne des raisons de s'inquiéter, car quand les personnes mauvaises ont des problèmes, elles font des mauvaises choses. Joe Biden a toutefois assuré qu'il cherchait à entretenir une relation rationnelle avec la Chine. « Je ne veux aucun mal à la Chine, mais j'observe. » Il y a eu récemment une succession de visites de hauts responsables américains à Pékin, dont le chef de la diplomatie, Anthony Blinken. Les premiers touristes spatiaux transportés par l'entreprise américaine Virgin Galactic ont atteint l'espace jeudi, a annoncé la société fondée par le milliardaire Richard Branson, qui réalise ainsi une promesse faite il y a deux décennies. Les trois passagers de 80, 46 et 18 ans ont décollé depuis le Nouveau-Mexique. La Minute Éco, Nathalie Barge.
L'Université Inter-État Congo-Cameroun a signé un accord de coopération avec l'Université KL de Vadesvaram en Inde pour la formation d'ingénieurs du numérique, a indiqué le ministère de l'Enseignement supérieur camerounais. Les deux pays d'Afrique centrale vont créer un centre d'incubation d'entreprises technologiques innovantes. L'accord fait également intervenir l'Université Jagora et Yaoundé. Selon l'enquête annuelle de la Société de conseil en communication ASDA, plus de la moitié des jeunes d'Afrique du Nord et du Proche-Orient essaient de quitter leur pays ou envisagent de le faire pour trouver de meilleures opportunités d'emploi. Plus d'un quart des jeunes des États du Conseil de coopération du Golfe envisagent l'émigration. La plupart des jeunes arabes veulent émigrer au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Le montant des dégâts engendrés par les catastrophes naturelles au niveau mondial a légèrement diminué au premier semestre à 120 milliards de dollars selon SwissRe. La catastrophe la plus coûteuse a été le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, indique l'assureur d'assurance, affirmant que les frais sont de 5,3 milliards de dollars. Les pertes assurées pour les orages et phénomènes météorologiques associés se sont élevées à 35 milliards de dollars, dont 34 milliards aux États-Unis.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Eric Manirakidza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Allemagne, accord entre le Bayern et Tottenham pour le transfert de Kane à Munich.
Le Bayern et Tottenham ont trouvé un accord pour le transfert à Munich de l'avant-centre Harry Kane de 30 ans pour un montant record pour la Bundesliga, supérieur à 5 millions d'euros, affirmaient plusieurs médias allemands et anglais hier jeudi. Harry Kane avait donné son accord au Bayern fin juin, mais certains médias anglais et allemands affirmaient jeudi après-midi que l'attaquant tout juste trentenaire hésite à nouveau à donner son feu vert pour un transfert vers le Bayern. Selon Sky Sports en Allemagne, ce serait du 50-50, alors que Sky Sports News, côté anglais, estime de plus en plus probable que Kane reste à Tottenham la saison 2023-2024. Le Bayern s'est mis en quête cet été d'un remplaçant de Robert Lewandowski. Machine à but pendant 8 saisons, Bayern est parti à l'été 2022 au FC Barcelone. Pour attirer Kane, le club bavarois s'est montré prêt à casser sa tirelire alors qu'il n'est pas habitué à faire des folies sur le marché des transferts.
En Angleterre, J-1 avant la reprise de la Première Ligue.
Arsenal, Liverpool, Manchester United, voire Newcastle fourbissent leurs armes pour tenter d'enfin briser l'hégémonie de Man City, champion à l'insatiable appétit et de nouveau donné favori au championnat d'Angleterre où Tottenham et Chelsea aspirent à rebondir. Les grosses fortunes de la Première Ligue ont encore tapé fort cet été. Reste à voir comment la pression de ces millions va être digérée par les recrues.
En Italie, l'entraîneur de la Juventus Turin sera patient avec Pogba.
Massimiliano Allegri a prévenu qu'il faudrait encore faire preuve de patience avec l'international français Paul Pogba après une saison 2022-2023 hachée par les blessures où il n'a pu disputer que 6 matchs de championnat. Paul est dans de bonnes dispositions, son genou réagit bien, a-t-il poursuivi. De retour l'été dernier à Turin, où il avait déjà évolué de 2012 à 2016, Pogba, 30 ans, a enchaîné des problèmes physiques, à commencer par une blessure au genou droit en juillet 2022. Indisponible jusqu'en février, le champion du monde 2018 a de nouveau dû s'arrêter un mois en mars après une blessure à la cuisse droite. Il s'est de nouveau blessé le 14 mai, cette fois à la cuisse gauche, et a dû mettre un terme à sa saison.
MLS, DC United congédie un joueur grec pour comportement raciste.
Le club américain de football DC United a mis fin au contrat de son joueur grec, Taxiarchis Fontas, accusé d'avoir tenu des propos racistes, a annoncé jeudi l'instance organisatrice du championnat MLS.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La France et le Mali viennent mutuellement de suspendre la délivrance de visas à travers leurs services consulaires respectifs de Paris et Bamako. Au nom du principe dit de la réciprocité, les autorités de Bamako ont suspendu le visa aux ressortissants français jusqu'à nouvel ordre. Modibo Dambélé a joint par téléphone à Bamako Amadou Alpha Sissoko, analyste politique.
Forcément, l'impact va être désastreux. C'est une décision malencontreuse que souverainement les autorités françaises ont annoncé. Le Mali, par principe, comme ça sied aux relations entre États, a joué un peu la réciprocité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va beaucoup impacter certaines catégories socio-professionnelles, les étudiants, les commerçants, les industriels, les hommes d'affaires qui font des va-et-vient entre ces deux pays-là et qui n'ont pas besoin ni de nationalité ni de trucs parce qu'ils n'ont pas de frais particuliers. Donc, ils prennent plutôt les visas. Et vous savez, l'impact psychologique de la décision est incommensurable parce que ça donne un peu déjà les relations entre les deux États étaient assez délétères, mais là, crescendo, les choses vont vers le pire.
La même décision a été prise également contre les ressortissants burkinabés. Quelle est votre réaction aussi par rapport à ça?
C'est la même analyse et ça donne un très mauvais signal dans les relations entre la France et les États francophones d'Afrique. Parce que ça concerne le Niger, si vous voulez, le Burkina, le Mali. Ça dénote aussi d'une certaine ligne extrémiste qui s'installe un peu du côté de Paris et qui peut être beaucoup préjudiciable en termes de réciprocité. Parce que vous savez, nos États sont interdépendants. La relation est dans les deux sens. Et le commerce humain, aucun État aujourd'hui ne doit s'amuser à gêner le commerce humain, l'aller et le venir entre les populations. Parce que c'est de cela aussi que le business fonctionne, que les affaires fonctionnent.
Qu'est-ce qu'on doit faire alors pour essayer de baisser la tension?
La désescalade est une vraie nécessité. Elle est impérieuse aujourd'hui. Et moi, je pense personnellement que c'est du côté français qu'on doit revoir les copies. Essayer de tenir compte de l'évolution. L'Afrique de 2023 n'est pas égale à l'Afrique de 60. Un peu plus d'échanges et non une politique de va-t-en-guerre. En Afrique, ils veulent se réapproprier leur souveraineté. Donc à nos autorités aussi de savoir garder les canaux du dialogue, de l'écoute, pour échanger un peu avec les autorités françaises, pour que tous les canaux ne se brisent pas non plus.
Amadou Alpha Sissoko, analyste politique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Niger, des partisans des putschistes qui ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet ont agité des drapeaux russes lors de manifestations de soutien à la junte au pouvoir. Une bonne affaire pour certains tailleurs qui notent une explosion de la demande pour ces drapeaux sur fond de sentiments anti-français. Mohamedou Humfa nous en dit plus.
Trois coupes de tissu de couleur blanche, bleu et rouge à assembler en bande horizontale. Le tailleur nigérien Yahaya Umaru ne compte plus le nombre de drapeaux russes qu'il confectionne au quotidien, tant la demande est importante.
C'est un drapeau russe que je couds en ce moment. Ces derniers temps, des gens viennent dans mon atelier pour confectionner des drapeaux pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Le jour du rassemblement au stade national, par exemple, beaucoup de gens venaient coudre des drapeaux, surtout de Russie.
À Niamey,
De nombreux commerçants et tailleurs confirment que les drapeaux russes sont très demandés depuis le coup d'état militaire ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Dedea Alassane, vendeur de tissus.
Depuis quelques jours, je vends beaucoup de tissus aux couleurs de la Russie. Des commerçants et des gens achètent ces tissus. Je ne peux pas estimer combien de tissus ont été vendus ces derniers temps, mais quand un produit est facile à acheter, il devient difficile de s'approvisionner. Avant cette période, ce n'est que lors des campagnes électorales que les tissus étaient si populaires.
Comme au Mali et au Burkina Faso, pays également dirigés par des putschistes, les drapeaux russes fleurissent désormais lors des manifestations de soutien aux militaires. Un message clair qu'entendent envoyer les manifestants. Dokacha Abdulaziz, manifestant pro-junte.
Je suis allé aux manifestations et j'étais avec un drapeau russe. J'aime la Russie parce que la plupart des pays africains sont avec les Russes. Je pense aussi qu'ils ont une solution.
Cette affection pour la Russie, disent certains experts, est en fait le reflet d'un sentiment anti-français qui n'a cessé de croître au Sahel et dans d'autres pays africains. Les autorités françaises, quant à elles, pensent qu'il s'agit d'une manipulation par la Russie qui, même si elle n'est pas à l'origine du coup d'État au Niger, pourrait en profiter pour conforter sa place sur le continent, notamment via la milice Wagner.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Soudan, divers quartiers sont sous l'emprise des forces de soutien rapide avec des affrontements dans d'autres quartiers de Khartoum. Les habitants qui sont restés sur place font face à de nombreux défis pour assurer leur survie. Eric Manira Kidza a joint un habitant de la capitale soudanaise, le journaliste Salah Mohamed El Hassan Osman.
Je suis à Khartoum, dans le quartier Kalakla, au sud de Khartoum.
Mais ça faisait longtemps que vous ne pouviez plus communiquer. Que s'est-il passé?
Le problème, c'est qu'il y a des coupures d'électricité qui durent souvent une semaine ou 10 jours. Le courant est rétabli pour 1 ou 2 jours et ça coupe encore. Nous avons 3 réseaux d'Internet dont un seul fonctionne et il est souvent très faible de débit. Alors, c'est difficile.
Et aujourd'hui, comment vous vivez dans cette capitale qui est frappée par des combats?
Difficilement. Et comme je viens de vous dire une fois, c'est grâce à une source de solidarité communautaire. On partage ce qui est là, mais c'est très peu. Les marchandises commencent à s'épuiser. Par exemple, les œufs sont disparus du marché. On passe 2-3 jours sans pain parce qu'il n'y a pas d'électricité pour le four de pain. La viande est très rare. On dépend sur les lentilles et des légumes, des trucs fabriqués comme ça. Mais la situation de nourriture est très très grave. Je pense que dans 2 semaines ou 10 jours, il n'y aura plus à manger dans plusieurs quartiers de Khartoum.
Est-ce que vous vous rendez quelquefois dans un autre quartier? Est-ce que vous pouvez vous déplacer d'un quartier à l'autre?
En fait, le quartier Al-Kalakla, il y a 4 quartiers. Al-Kalakla, on peut se déplacer dans ces quartiers. Il y a des gens qui s'aventurent pour aller dans d'autres quartiers comme Mayo, au sud de Khartoum, mais c'est très difficile. Il n'y a pas de transport en commun. Alors, pour aller dans un autre quartier, il faut louer soit un raksha, soit un taxi, soit un minibus privé. Mais il n'y avait plus de transport en commun.
Est-ce que vous pouvez trouver facilement de l'eau potable?
Quand il y a de l'électricité, il y a de l'eau. Mais quand l'électricité coupe, il n'y a pas de... L'électricité coupe souvent. Par exemple, nous avons eu l'électricité. Le courant est rétabli suite à 10 jours de coupure. Alors, on ressort à des réservoirs. Par exemple, moi, j'ai un réservoir de 2 barils. Je le remplis, je le partage avec les voisins. Il est vidé hier, par exemple. Hier, J'ai failli aller à l'hôpital turc, il y a l'organisation Médecins sans frontières, pour me procurer de l'eau potable. Alors, je suis en train de remplir mon réservoir de barils. Tous les voisins font comme ça. D'abord, l'eau qui est gardée commence à pourrir parce que, je ne sais pas, de l'eau pure. Et puis, ça s'épuise. Ça s'épuise dans 2-3 jours.
Joint hier à Khartoum, un habitant de la capitale soudanaise, notre confrère Salah Mohamed El Hassan Osman.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Togo, le prix du bol de maïs de 2,5 kg a flambé sur les marchés à une période où les produits de la nouvelle récolte devraient faire baisser les prix. C'est le contraire qui est observé. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
Au marché de Bossimé à Lomé, le prix du bol de maïs atteint des records en cette période de l'année. D'habitude, il se négocie entre 450 francs et 500 francs CFA, mais actuellement, il y a une hausse d'environ 50%. Dame Yawa, revendeuse de la céréale, explique.
Le prix du maïs jaune ou blanc est de 850 francs. Cette hausse de prix ne dépend pas de nous. La saison n'a pas été bonne pour les agriculteurs. Les champs n'ont pas donné comme ils l'espéraient, alors qu'ils ont beaucoup investi. La rareté de la céréale a fait monter les prix en ce moment.
Emmanuel Sogadji de la Ligue des consommateurs, qui a fait un tour dans les marchés de la capitale, soupçonne les grossistes de faire de la spéculation.
Moi, c'est pour la question de savoir est-ce qu'il y a un phénomène qui a engendré l'augmentation des prix au niveau des grossistes ou bien si c'est une volonté de ces grossistes-là à pouvoir maximiser leurs bénéfices en attendant que la période d'abondance des récoltes proprement dites n'arrive. Les bonnes dames qui vendent les produits les céréaliers sur le marché, elles nous ont dit que entre-temps, c'est à 35 000 qu'elles achetaient le sac, mais aujourd'hui, c'est à 50 000 qu'elles sont allées pour prendre le sac de 100 kg. Donc, on comprend finalement que ce sont les grossistes-là qui ont décidé de faire ce qu'elles veulent.
Dame Nike, grossiste, se défend.
Si le prix du bol de maïs est cher en ce moment, ce n'est pas la faute des grossistes. Nous allons dans les champs, les paysans nous donnent leur prix et nous achetons le produit. Aujourd'hui, les agriculteurs ont aussi des charges comme l'achat des engrais, le métayage et autres qui jouent sur les prix. Et puis, quand la saison n'est pas bonne, le peu qu'ils ont récolté, ils vont vouloir le vendre cher. Donc, ce n'est pas de notre faute.
Dame Nike fait savoir que si les grossistes devraient réellement répercuter les frais de transport et les différentes taxes municipales sur les prix du maïs, la céréale ne sera pas à la portée des consommateurs togolais. Emmanuel Sogadji de la Ligue des consommateurs du Togo en appelle aux autorités.
Nous connaissons la situation dans laquelle le Togo est aujourd'hui, la situation financière où la vie est chère, où l'argent ne circule pratiquement plus. Il faudrait qu'on puisse interpeller les autorités. Le ministre en charge du commerce particulièrement a initié des rencontres avec ces bonnes dames-là pour savoir quelle est la raison principale qui les pousse à faire cette augmentation.
Dans le sillage de la hausse des prix du maïs, on constate aussi que d'autres produits comme le haricot, l'huile, la farine du manioc, appelée gari et les pâtes alimentaires suivent la tendance. Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X, Lex, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.